Rendez-vous dans l'ascenseur, émission spéciale Covid-19, digitalisation avant et après, en partenariat avec ThyssenKrupp Ascenseur, un acteur majeur de la mobilité du futur.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale qui va nous permettre de prendre de la hauteur et aussi de la largeur au niveau de la vision de l'avenir en ce qui concerne la digitalisation. Nous allons nous poser pendant une heure environ pour évoquer l'avant et l'après Covid-19. Vous pouvez bien sûr réagir, nous laisser vos commentaires et également vos questions. Nous essaierons d'en sélectionner quelques-unes pour les poser à nos invités. Nos invités qui sont au nombre de quatre aujourd'hui. Nous sommes cinq donc dans cet ascenseur. Alors effectivement, nous ne sommes pas dans les préconisations des gestes barrières qui demandent à ce qu'aujourd'hui nous ne soyons que deux dans des ascenseurs. Mais là, c'est un ascenseur virtuel, donc on peut se permettre certaines choses. Nos invités, nous avons la chance d'avoir Emmanuel François, président de Smart Building Alliance. Bonjour Emmanuel. Bonjour également à Pascal Zérates, directeur général de Cardam Digital. Bonjour cher Pascal. Et Sébastien Bonjour. Durand également, directeur innovation et transformation, directeur général Nexity Solutions Digital. Nous avons le plaisir d'être avec nous. Bonjour Sébastien. Nous réalisons cette émission avec la complicité de ThyssenKrupp Ascenseur, leader mondial du secteur, représenté par son président Emmanuel Paris, qui nous fait également le plaisir de jouer les co-animateurs. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Eric.
Avant d'évoquer la période de confinement telle qu'elle a été vécue par ThyssenKrupp, pouvez-vous nous dire, cher Emmanuel, pourquoi vous avez choisi ce thème, digitalisation avant et après la Covid-19, puisqu'il faut dire la Covid-19, et nous dire aussi pourquoi vous avez souhaité inviter nos trois experts qui sont présents avec nous aujourd'hui.
Merci, Eric. Effectivement, pour une raison très simple, nous avons vécu une période de 2 mois où la...
Voilà, alors ça c'est...
La digitalisation a été plus que jamais au cœur de nos fonctionnements, et donc ça me paraissait intéressant qu'on puisse aborder, partager ce sujet. Et pour ça, avec trois invités qui sont des experts d'un côté de l'immobilier, mais des experts aussi de la digitalisation et des sachants de la digitalisation. Ils sont tous les trois dans des logiques d'innovation, de rupture, et je pense qu'on aura de cet échange beaucoup de choses très, très fructueuses. Et donc très intéressé de partager ce sujet avec... nos trois invités. Merci à vous trois d'être venus.
Merci effectivement d'être présents. On nous reproche, alors c'est déjà arrivé ce matin, on nous reproche qu'il n'y ait pas d'éléments féminins dans cette émission. Est-ce que ça veut dire quoi? Qu'il y a moins de femmes au niveau du digital dans les entreprises d'immobilier?
Je ne crois pas, effectivement. Maintenant, vous me l'avez dit, Eric, c'est une erreur qu'il va falloir qu'on rattrape pour les prochaines fois. Mais en l'occurrence, on était aussi sur une thématique de la digitalisation avec des personnes avec qui on a l'habitude de travailler et de partager et sur lesquelles on travaille vraiment en symbiose. Donc voilà, c'était plus des questions aussi de personnes que vraiment de autre chose. Voilà. Donc, non, effectivement, vous avez entièrement raison. La digitalisation n'est pas du tout un sujet d'homme, mais un sujet totalement partagé.
Voilà, on rassure les dames qui nous écoutent, qui nous ont envoyé des messages. Merci. Chez ThyssenKrupp, donc vous représentez 150 pays à travers le monde. Comment vous avez vécu, alors peut-être pas dans tous les pays, mais est-ce que vous avez des exemples, Emmanuel, de confinement dans les différents pays dans lesquels vous travaillez?
Alors, on a beaucoup partagé entre pays, et plus particulièrement entre pays européens. Avec une continuité sur l'ensemble chez ThyssenKrupp, c'est un, la priorité des priorités, c'était la santé des équipes et des usagers, nos usagers. Et deux, c'est la continuité de service. Notre métier, c'est d'installer les ascenseurs et d'assurer la maintenance des ascenseurs. Sur la maintenance des ascenseurs, on a vraiment tous été dans une logique de poursuivre cette continuité de service et assurer et continuer la maintenance et ainsi que les dépannages de nos ascenseurs. Globalement, on a eu un impact fort comme tous les business, mais on est sur un business très résilient. Donc, au final, avec une très forte proportion de maintenance, on a globalement plutôt continué tous de travailler dans tous les pays avec des impacts plus forts chez mes collègues espagnols, italiens et la France que par rapport à d'autres pays, plus dans le nord, si on parle de l'Europe. On a partagé au quotidien avec l'ensemble des pays européens pour partager à la fois les achats de masques, de protection individuelle de manière générale, et puis aussi les meilleures pratiques. Donc, on a vraiment travaillé main dans la main tous pour faire en sorte qu'on, qu'on, on puisse assurer la meilleure continuité de service et la meilleure qualité de travail. En France, on a mis en place 3 cellules de crise, une opérationnelle, une communication, une de direction pour pouvoir faire en sorte qu'on soit sûr de communiquer au mieux avec nos équipes dans un moment complexe. D'une part, et puis d'autre part, on a mis tout le monde en télétravail. Tous ceux qui étaient possibles de mettre en télétravail, on l'a fait en 2 jours. Et puis, on a travaillé sur des nouveaux process d'approche. Bref, oui, effectivement, ce confinement a été un vrai changement. Mais globalement, on peut dire que chez Tissot Group, on s'est plutôt bien adapté à cette période. Mais ça a été un vrai bouleversement. On en parlera au cours de cette session. Plein de bonnes choses aussi à ressortir.
Alors, je me tourne vers Sébastien Durand. Vous êtes, Sébastien, directeur général d'Nexity Solutions Digitales. Avez-vous, vous, durant cette période, constaté un changement radical de l'usage du digital ou pas? Et si oui, quelles sont les conclusions que vous en avez tirées chez Nexity Solutions Digitales pendant le confinement, justement?
Bonjour à tous. Alors oui, très clairement, tant d'un point de vue interne, c'est-à-dire dans la façon de nous organiser collectivement, que d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire dans la façon de réaliser nos métiers historiques, à distance, on a vu un vrai changement. Alors comment est-ce qu'on l'a géré? En nous appuyant en fait simultanément sur des outils numériques connus, tels que Teams, Skype, Zoom, ou Klaxoon, qui est une application qui permet d'animer des ateliers de brainstorm avec de très nombreux participants. Mais en nous appuyant aussi sur nos collaborateurs préoccupés tous par le fait de maintenir la relation commerciale avec leurs clients, de ne pas les abandonner et de les accompagner, surtout sur les métiers du property management, pour préparer les conditions de reprise le plus tôt possible. Et je pense notamment aux équipes du PM qui ont travaillé sur des communications clients hebdo, un peu comme l'évoquait Emmanuel, à distance, sous forme de webinar, afin de présenter des newsletters, des flash infos, des guides métiers, sorte de bible un peu de bonnes pratiques pour préparer justement la rouverture de ces sites.
Vous utilisez déjà les webinars chez Nexity?
On les utilise et on va les utiliser de plus en plus, oui. Mm-hmm.
Pascal Zerates, vous êtes, vous, directeur général chez Cardam Digital, donc qui est un département du groupe Cardam. Vous avez été précurseur quant à l'usage du digital pour le bâtiment. Vous proposez de nombreux services numériques, comme la conciergerie digitale, le flex-office, la signalétique dans le bâtiment, les technologies du média également. Là, c'est quelque chose qu'on sait moins, mais moi, j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à aller faire un petit tour sur le site de Cardam Digital, parce que c'est extrêmement intéressant. On n'oublie pas les technologies du média, donc je le disais, les bases de données, les allocations de ressources. Cardam Digital qui est jeune, puisque vous l'avez lancé en novembre 2019, donc on peut dire 3 mois avant le confinement. Comment vous êtes-vous adapté à cette période chez Cardam Digital? Est-ce que vous avez senti d'entrée que cela pouvait être une opportunité?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était sur nos runs de développement pour les clients qui nous avaient fait confiance avant le confinement. Donc, nous étions partis sur les développements de nos applications servicielles pour différents clients. Et puis, on a eu en fait un épisode où on était sollicité par une association du Grand Est pour accompagner le deuil. Et on nous a sollicité pour développer des plateformes de streaming pour permettre aux familles d'assister aux funérailles des victimes du Covid-19. Donc, pour nous, ça a été un challenge et parce que il fallait qu'on détourne un petit peu nos capacités de développement pour répondre à cette demande qui était pour nous très importante, et c'était aussi notre façon de contribuer à l'effort de guerre contre ce drame. Donc nous avons mis cette plateforme en place, et puis nous avons été aussi bousculés par nos clients qui nous ont demandé effectivement de travailler sur des plateformes de travail à distance, de formation à distance, de webinaires. On en parlait, sur lequel effectivement nous sommes partis sur des développements un petit peu sur mesure, avec une démarche très souveraine au niveau de la gestion des données, c'est-à-dire de l'hébergement en France, de la sécurité, dans le design de la solution. Donc pour nous, ça a été, alors non pas une opportunité, mais un accélérateur cette situation, sur laquelle nous avons effectivement beaucoup appris.
Alors, on y reviendra dans la suite de cette émission, mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu par rapport à l'exemple que vous nous donnez sur le deuil, comment vous avez accompagné les cérémonies de deuil dans le Grand Est. Concrètement, ça marchait comment? C'est-à-dire que on sait que les obsèques sont limitées à 20 personnes maximum. Donc oui, il y avait quelqu'un qui tenait la caméra, c'est qui, un employé des pompes funèbres? Comment ça se passait?
Alors, c'est ça. L'idée, c'était de faire en sorte qu'une personne qui participait physiquement à la cérémonie puisse, avec un smartphone, faire une captation de l'événement. Et cet événement était retransmis en direct au niveau des familles, qui s'était inscrit au préalable sur un site web. Et puis, avec la possibilité après d'accéder au contenu en streaming pour revoir la cérémonie. Donc, c'était pour nous un développement sur mesure dans un environnement particulier.
Alors, nous allons dans un instant aborder trois thématiques dans cette émission. Une première concernant les usages, mais on va en parler tout de suite avec Emmanuel François. On va parler de machine learning également. Et puis, nous dirigerons vers les idées de relance, effectivement, puisqu'on est en plein avec le déconfinement. Alors, Emmanuel François, vous êtes président et cofondateur du Smart Building Alliance for Smart Cities. Voilà, on découvre chez vous en même temps, puisque vous nous faites.
Ah, désolé, mais j'ai des problèmes de connexion.
Non, mais on vous voit bien, il n'y a pas de souci, on vous entend également. Le travail que vous effectuez depuis un peu plus de 10 ans à la constitution d'une filière d'excellence pour l'immeuble intelligent et la ville intelligente, ce travail est-il en phase justement avec les aspirations des populations depuis ces 2 mois de confinement? Est-ce qu'il y a selon vous un véritable changement de notre comportement?
En fait, il est clair que cette crise a été d'une brutalité incroyable et elle nous a précipité dans un nouveau monde avec des nouveaux usages du numérique. Il y avait une tendance de fond qui était en cours avec un peu de télétravail, un peu d'e-commerce, un peu de e-learning. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, 4,5 milliards de la population mondiale s'est retrouvée obligée d'utiliser à 100% les outils numériques. Et pas forcément dans les meilleures conditions. Donc, je peux dire que d'une manière générale, ça s'est bien passé, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des failles, notamment en termes d'infrastructure, en termes de sécurité, en termes d'accessibilité, de connectivité. Ceci étant, un bon nombre de la population s'est adapté et je pense que on peut dire aujourd'hui qu'il y a un avant et un après Covid, en tous les cas sur les usages du numérique. Et donc, quelque part, ça va impacter fondamentalement notre société, notre organisation.
Est-ce que ça a un impact aussi, je posais la question tout à l'heure à Sébastien Durand, mais est-ce que ça a un impact sur vos travaux aussi, justement? Alors, les travaux que vous menez depuis longtemps. Vous.
Oui, alors déjà, est-ce que je peux dire, le côté positif, c'est que moi j'avais mis la barre très haute en début d'année sur certains objectifs sur la production de la SBA, notamment sur le label Ready to Service et ses déclinaisons servicielles, avec des objectifs d'être prêt pour septembre. Et là, je peux vous dire que le Covid, le fait qu'on a fait des conférences et du télétravail, des conférences webinars, nous ont permis d'aller beaucoup plus vite sur les réflexions et d'être beaucoup plus efficaces. Ça a été incroyable et on a gagné beaucoup de temps. C'était peut-être fatigant, mais on a gagné beaucoup de temps et je vois aujourd'hui qu'on va continuer dans ce sens-là. On avait l'habitude avant de se retrouver pour faire des réunions de travail et aujourd'hui, on a décidé de continuer toutes ces réunions plutôt en webinar parce qu'en fait, on avance beaucoup plus vite.
Donc, ça, c'est une remarque générale. J'imagine que vous êtes tous d'accord avec ça. Effectivement, on en parlait hors antenne également tout à l'heure avec vous, Emmanuel Paris. C'est un véritable gain de temps pour les entreprises aussi. On a l'impression d'avoir plus travaillé finalement peut-être dans cette période.
Oui, c'est clair. Alors après, bien entendu, ça marche parce qu'on se connaît tous, des écosystèmes qui se connaissent. Et donc, il y a une certaine confiance qui est établie. Et il faudra de toute façon, ça ne remplacera jamais le contact physique qui est important aussi parce qu'il y a des choses qu'on se dit les yeux dans les yeux et qu'on ne peut pas se dire comme ça forcément en webinar, surtout devant plein de gens. Mais pour produire, pour avancer sur des sujets aussi importants, c'est Ça a été très, très bénéfique. Et donc là, on peut dire que la SBA a fait un grand pas et va permettre de porter donc, des nouvelles étapes dans la connectivité et des bâtiments d'ici septembre. Et ça tombe point à point nommé, puisque le gouvernement veut lancer un vaste plan de rénovation énergétique des bâtiments. Mmh. Eh bien, nous, on est là pour leur dire, c'est bien, et profitons-en pour y associer le numérique.
Bien, on y viendra tout à l'heure si vous le voulez bien. Dans le cas de cette modification des usages, vous l'avez évoqué, on est vraiment dans l'ère du sans-contact, et qui dit sans-contact dit peut-être quelques complications au niveau de la gestion des ascenseurs. Emmanuel Paris, ces nouveaux gestes barrières, comment vous faites en sorte de pouvoir les appliquer aujourd'hui ?
Alors c'est vrai que dans les premiers jours, suite à l'annonce du président de la République, on a dû réinventer notre métier, la façon d'opérer. Donc ça veut dire que concrètement, on a notre service sécurité en lien aussi avec la Fédération des ascenseurs. On a réinventé la méthodologie de maintenance pour arriver sur un site, premièrement, pour qu'un technicien puisse faire une maintenance en toute sécurité. Donc avec des mesures consistent à dire, si je croise un copropriétaire ou je ne vais pas sur le site. On doit être à deux grand maximum dans un ascenseur. On se fait pas face, mais on se fait dos à dos. Bref, tout un processus et on ne touche pas les boutons non plus avec le doigt, mais plutôt avec un mouchoir. Donc, on a réinventé ça pour l'ensemble de nos process et méthodologies pour pouvoir sécuriser nos maintenances pour nos techniciens d'un côté et puis après, bien évidemment, pour les usagers dans le cadre. Donc, c'est un vrai changement et qui à ce jour montre que ça fonctionne plutôt bien. Au-delà de l'usage de l'ascenseur, ce qu'on voit, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel François à l'instant, ça, le télétravail a changé radicalement beaucoup de choses en termes d'efficacité, en termes de temps de transport, où on a réduit très significativement les temps de transport domicile-travail. Moi, j'étais à une heure l'aller, maintenant je suis à 30 secondes. Effectivement, on voit des gains d'efficacité qui sont très importants, pas de pollution et puis un équilibre travail professionnel qui est assez intéressant avec des changements radicaux en termes de management. Je crois que c'est Emmanuel qui vient de le dire, ça marche avec des personnes qu'on connaît. En revanche, là, on a eu l'occasion d'intégrer des nouvelles personnes qu'on avait recrutées, forcément, il faut du contact. Et donc, il va falloir qu'on réinvente l'usage au travail et ça, c'est une vraie réflexion très, très intéressante qui est en train de s'ouvrir suite à ce qu'on vient de vivre. Tout à l'heure de webinaire, mais en tout cas, c'est vraiment, il y a eu un vrai changement à la fois dans notre métier pour les mainteneurs d'ascenseurs, mais aussi notre manière de fonctionner et de manager tout ça.
Est-ce que ça a aussi un impact peut-être plus négatif sur l'immobilier d'entreprise ou l'immobilier de bureau et donc forcément le marché des ascenseurs ? Là, je me tourne peut-être vers Sébastien Durand, puisque les marchés de bureau chez Nexity, effectivement, ça fait partie de vos activités aussi. Est-ce qu'on sent déjà que les entreprises ne vont pas utiliser les bureaux de la même façon aujourd'hui ? Peut-être on aura besoin de moins d'espace.
Alors oui, notre conviction, c'est que le télétravail ne va pas tuer le bureau, il va le réinventer. On parle souvent de le bureau comme étant le cœur battant en fait d'une communauté professionnelle. Si on se réfère aux récentes enquêtes qui ont été tenues sur le sujet, on rappelle quelques réalités. On a 42% des télétravailleurs qui n'ont pas d'espace dédié au boulot chez eux. 49% estiment ne pas être correctement équipés pour le télétravail. Et plus d'un sur deux, 54% de mémoire, sont plusieurs à télétravailler dans le même foyer. Donc si on ajoute à ça les 40% qui ressentent une dégradation forte du lien social, on en parlait juste avant, il est clair que la simple juxtaposition bureau-télétravail à domicile n'est pas suffisante. Donc chez Nexity, en fait, nous sommes convaincus qu'il faudra probablement penser une offre multi-service qualitative qui permettra d'occuper successivement le poste de travail à son bureau, à son domicile ou dans un tiers-lieu.
Et vous imaginez ça comment ? Vous avez déjà commencé à réfléchir à je sais pas, l'adaptation d'un bureau chez soi ? On peut faire ça, vous y pensez dans les constructions futures ?
Alors, ce sont des réflexions, effectivement, qui ont été lancées. Elles ont été lancées grâce aux ateliers de brainstorming qui ont pu être menés grâce à l'outil Zoom, parlé tout à l'heure. Et effectivement, les synergies entre l'immobilier résidentiel d'un côté et l'immobilier d'entreprise chez nous sont très importantes.
Vous avez un exemple d'ailleurs de choses que vous mettez en avant chez Nexity. Je pense au parcours d'accueil. Les parcours d'accueil qui sont véritables lorsqu'on va dans une entreprise. Lorsqu'on vient chez Nexity, par exemple, il faut se faire identifier à l'accueil en bas, il faut laisser sa carte d'identité, etc. Vous avez réfléchi à cette solution pour les entreprises qui reçoivent beaucoup de monde?
Oui, clairement, c'est une bonne remarque. La valeur intrinsèque de certaines de nos offres a évolué et on est bien évidemment passé d'un usage A à un usage B. Effectivement, c'est le cas de l'offre d'accueil intelligent. L'offre d'accueil intelligent a été imaginée au départ par les équipes de Nexity afin de gérer et de personnaliser autant que faire se peut le parcours d'accueil des résidents, des invités et des prestataires qui pénètrent dans le bâtiment, grâce notamment à l'envoi de codes d'accès, de droits d'accès par QR code ou par badge.
D'accord.
Désormais, on comprend bien en fait qu'on va utiliser l'appli non plus pour réduire le temps à l'accueil, mais bien pour éviter de pouvoir récupérer un badge qui est potentiellement infecté.
D'accord, ça veut dire qu'avec son propre téléphone, avec son application, on arrive, on n'a plus besoin de se signaler à l'accueil, on peut rentrer directement. On va gagner du temps comme ça.
Exactement.
Voilà, ça limite aussi les problèmes de sécurité. Il faudra, ou ça, c'est des choses que vous êtes sur lesquelles vous êtes en train de travailler justement.
Alors, ce sont effectivement des options qui sont prévues dans l'offre, qui permettent de tracer la mobilité du collaborateur, du visiteur dans le bâtiment, mais bien évidemment, ça existe. Il y a un autre usage aussi qui se développe actuellement, c'est bien évidemment le sujet du monitoring et le pilotage des sites à distance.
Ouais.
C'est assez redondant avec le sujet qu'on vient d'évoquer. Enfin, tout le moins, c'est complémentaire, mais on voit bien que ce Covid a permis d'accélérer l'utilisation en fait des plateformes digitales qui sont en train de se déployer dans le secteur immobilier. Et d'un point de vue très concret, par exemple, les techniciens aujourd'hui au sein du property management peuvent prendre en photo depuis leur tablette la configuration d'un espace à nettoyer, RIE, hall d'accueil, l'envoyer directement au prestataire de ménage concerné via une appli de workflow. Et cette appli de workflow va envoyer une demande d'intervention en bonne et due forme, le tout pouvant être directement consultable par le propriétaire. Donc ça, c'est un vrai cas concret de gestion technique d'un bâtiment.
Alors, vous avez tous évoqué, on a tous parlé du télétravail. Le télétravail aussi amène des évolutions. Tout à l'heure, Emmanuel Paris, vous parliez de management différent avec le développement du télétravail également. Vous êtes tous ici des cadres managers. Comment on s'adapte justement à ces nouvelles façons de travailler? Parce que le télétravail, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. On le disait, ça peut isoler également. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Pascal Zérates, peut-être?
Le télétravail isole si on n'y fait pas attention, effectivement, mais ça impose aussi une certaine discipline, des mesures de rituel en termes de management. Et pour le manager, ça signifie aussi que voilà, on passe sur un management un petit peu top-down à l'ancienne, un management beaucoup plus transversal, beaucoup plus horizontal, où il faut responsabiliser les collaborateurs pour les amener justement à se prendre en main à distance, que le télétravail n'est pas une fin en soi, c'est une variable d'ajustement de notre façon de travailler. Et l'immeuble doit rester, l'immeuble d'entreprise doit rester le centre de rencontre des équipes, où justement on va y apporter beaucoup plus de services pour qu'elles puissent être plus efficaces quand elles se rencontrent, pour justement développer ce travail en équipe qui va être aujourd'hui mixte entre le cybermonde et le monde physique.
Emmanuel Paris, oui, vous voulez rajouter?
Ouais, ce que je voulais rajouter, c'est que moi ma conviction, c'est que l'entreprise, c'est un collectif, qu'une entreprise réussit si y a un vrai travail en équipe. Et donc, notre job de manager, finalement, c'est d'être chef d'orchestre et de faire en sorte que, d'entraîneur, faire en sorte que ses équipes soient meilleures. Et donc, pour ça, il y a des lieux de rassemblement qui sont incontournables. Donc, ce sont les bureaux. Après qu'on réduise le temps de présence nécessite un management différent, mais j'ai vraiment cette conviction, et ce que vient de dire Pascal, c'est qu'il faut de toute façon qu'on trouve des moments et des moments sur le lieu ou en dehors du lieu pour pouvoir créer ce lien qui est indispensable à la performance, à l'ambiance, à la convivialité. Bah, c'est vraiment un élément pour moi qui est fondamental.
Surtout vous, vous avez des équipes en plus qui peuvent faire du télétravail, mais vous avez aussi chez ThyssenKrupp Ascenseur des équipes qui ne peuvent pas faire du télétravail, qui sont obligées d'être sur site.
Sur 2200 personnes, on a effectivement 1000 techniciens. Donc, par définition, ces techniciens sont sur site et sont chez nos clients au quotidien. Donc effectivement, on a une population dont on a l'habitude, et c'est notre métier, de les animer à distance et au quotidien en fait. Hein, mais vraiment à distance.
Voilà, c'est la même chose chez Nexity, hein, j'imagine, Sébastien Durand également, puisque qui dit chantier dit effectivement présence de personnel sur place.
Oui, bien sûr. Alors, on avait sorti une étude avec Ipsos en septembre 2019 de mémoire sur les cultures managériales au sein de l'immobilier tertiaire. Et à l'époque, il en était ressorti en fait que la réunion en face à face pour les managers français, hein, j'entends, hein, restait une valeur sûre. Et que dans leur grande majorité, en fait, les managers français étaient réticents à l'égard des nouveaux outils de communication. Bon, on voit bien que tout ça, ça tombe, hein, aujourd'hui. Donc ça va être intéressant de suivre les conséquences en fait de ce Covid sur les pratiques du télétravail et de l'utilisation du digital comme outil de transformation.
Pascal, vous vouliez prendre la parole?
Oui, juste, il ne faut pas oublier que le langage corporel, c'est plus de 50% de l'information que l'on va véhiculer lorsqu'on est en réunion. Alors quand ça se passe en visioconférence, c'est quand même un peu plus compliqué de passer cette information-là. Donc, la rencontre physique sera incontournable, quoi qu'il arrive.
Emmanuel François, vous êtes d'accord avec tout cela, bien sûr?
Oui, tout à fait. Je pense que, en fait, pour moi, si vous voulez, cette crise a accéléré l'hybridation de notre société. Voilà, ça peut lancer le débat, à commencer par le travail. Mais en fait, on voit bien que c'est aussi la santé, hein, avec... on a une santé à l'hôpital, mais on va avoir de l'e-santé. L'enseignement, moi j'ai posé la question à mes enfants. En fait, ils ont quand même réussi à maintenir un certain niveau d'enseignement. Et on va pas dire que c'est pareil, mais ils m'ont dit, attends, on a gagné beaucoup en efficacité parce que quand on prend les temps de transport qu'ils ont, c'est au moins 3 heures par jour. Sans compter le temps sur à l'école. Alors c'est vrai que c'est du temps où ils passent avec leurs amis, mais effectivement, si on va strictement sur l'enseignement, eh bien 4 heures par jour, ça leur suffisait pour avoir le même niveau de connaissance. Et ça, c'est à prendre en considération. Et on peut étendre ça à beaucoup d'autres usages. Et ça, c'est en fait quand on a compris ça, eh bien on voit que les usages sont en train de changer, une hybridation. Et forcément, on va aller vers une hybridation de l'immobilier dans lequel on a ces usages. Donc en fait, ça va imposer de repenser fondamentalement l'immobilier d'entreprise pour avoir des bâtiments non plus comme ils étaient certains, assez rigides, assez figés, mono-utilisation, mono-entreprise, à aller vers des bâtiments beaucoup plus ouverts, multi-usages et ouverts à des, voilà, je dirais pluriels. Et on voit aussi, c'est en train d'impacter la mobilité, donc en train de changer. Et je pense que notre société est en train de se mettre en marche dans cette, entre guillemets, hybridation. Et là, il y a un gros défi, un énorme défi, parce que le numérique est au centre. Et en fait, la page, elle n'est pas encore complètement écrite. C'est-à-dire que les codes ne sont pas encore forcément là. Notamment sur le traitement de la donnée, sur la collecte de la donnée, sur la sécurité de la donnée. Et je pense que c'est le défi des prochains mois et des prochaines années.
Cette notion de sécurité de la donnée chez Cardam Digital, Pascal, vous y êtes très sensible.
Alors oui, parce qu'en fait, on a des clients qui souhaitent, enfin qui sont très sensibles au fait qu'ils veulent rester propriétaires de leurs données. Donc, ils veulent savoir où sont leurs données. Par conséquent, nous, on préfère leur expliquer qu'ils sont dans des data centers en France, hébergés par nos soins. Et par conséquent, toutes les solutions aujourd'hui que l'on propose, on les fait, on va dire, secure by design, comme on dit, donc sécurisés à la base, mais aussi dans un environnement souverain. Donc, Pour nous, c'est un vrai sujet, puisque quand on propose des webinaires à des sociétés qui ont aussi des secrets qu'elles ne veulent pas voir divulguer par l'extérieur, et aujourd'hui, c'est difficile de venir hacker une plateforme de webinaire. Donc, nous, on sécurise tous ces environnements-là, comme on le fait aussi pour nos web TV, comme on le fait aussi pour tous ces environnements digitaux que nous proposons à nos clients, nos sites web et autres. Donc, oui, c'est un vrai sujet, puisque la souveraineté numérique doit être aujourd'hui repensée en France. On le sent, en tout cas, encore plus maintenant après ce Covid-19.
C'est ce que vous avez fait avec ThyssenKrupp, justement, à savoir, vous leur avez proposé une solution de webinar sécurisé, j'imagine.
Alors, le sujet que nous avons construit avec Thyssen, d'abord, le cahier des charges initial, c'était d'avoir des fonctionnalités de webinaire standard, donc de plateforme cloudisée dans un environnement, on va dire, anglo-saxon, et puis de proposer des fonctionnalités de base. Donc, nous, ce qu'on a expliqué aux équipes de ThyssenKrupp France, aussi bien marketing que technique, c'est que on voulait fournir un outil complètement clé en main à notre client, brandé ThyssenKrupp, et puis sécurisé et avec des données qui allaient véhiculer, qui allaient rester leur propriété. Et je pense que la DSI de Thyssen était très sensible à ça.
C'est facile aujourd'hui de se dire je veux que mes données soient sécurisées en France, en Europe et non pas n'importe où, n'importe comment, parce qu'on a l'impression qu'on choisit la facilité aussi aujourd'hui.
Bon, aujourd'hui, on est parce que justement l'usage du digital se démocratise sensiblement. Il faut savoir que le digital au départ, enfin en tout cas quand les gens qui ont développé les premiers PC, ils ont développé des PC pour des techniciens, des ingénieurs. Aujourd'hui, on n'a pas inventé le PC comme on a inventé la Citroën au moment où la voiture est née. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde peut conduire une voiture très facilement. C'est toujours un peu compliqué de se servir d'un terminal et d'un PC. Donc tout ça se démocratise. Les nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui sur le marché comprennent tout ça très rapidement. Et sont de plus en plus sensibles au fait que effectivement une donnée, qu'elle sorte d'une solution smart building, une solution de travail à distance, devient un asset très important pour l'entreprise. Et cette donnée, il faut qu'elle reste propriété de l'entreprise, qu'elle reste sécurisée pour l'entreprise.
Vous avez raison, parce que si je peux me permettre de rebondir, en fait, oui, il faut donner une donnée immobilière, enfin il faut donner une connotation immobilière à la donnée. Et là c'est quelque chose. Quand je dis ça veut dire que les infrastructures qui vont collecter la donnée et dans lesquelles les données sont stockées doivent être de l'immobilier et non pas du mobilier.
Emmanuel Paris, vous voulez réagir aussi?
Je voulais réagir. Alors, effectivement, le choix d'un webinaire, je voulais revenir en fait sur pourquoi est-ce qu'on a lancé un webinaire, parce que c'est typique de la période Covid-19. En fait, pendant, ça faisait des mois qu'on réfléchissait à faire des formations pour nos clients. Nos clients nous disaient, tiens, pouvez-vous expliquer à nos équipes simplement comment fonctionne l'ascenseur? Pouvez-vous expliquer ceci? Et donc, on l'avait imaginé en présentiel. Donc, on a bien compris que c'était has-been. À partir du moment où on a été confiné, on s'est dit, mais c'est pas du tout en présentiel qu'il faut le faire, c'est forcément en webinaire. Et donc, en 15 jours, avec Cardam, on a créé effectivement nos webinaires. Maintenant, on le fait au début toutes les semaines et maintenant, ça passe tous les 15 jours. L'idée étant finalement de former nos clients à la thématique de l'ascenseur sur des thématiques soit très simples ou plus compliquées. Mais donc, on est vraiment sur la réaction liée au fait qu'on soit bloqué à la maison. Et on a inventé quelque chose. Alors, c'est pas une invention, par exemple, ce serait trop prétentieux. Mais en tout cas, on a changé nos modes de fonctionnement avec beaucoup plus de réactivité et des réductions de coûts très fortes aussi, hein, d'une efficacité, en créant ce webinaire en partenariat avec Cardam, qui a fait qu'on a pu déployer des webinaires toutes les semaines, clairement. Et puis, du coup, on va faire beaucoup de formations en interne par ce biais-là. C'est-à-dire qu'on va utiliser cet outil également pour des formations internes pour nos équipes. Et donc, on est bien dans un changement d'usage digitale liée à cette crise sanitaire. Voilà, j'ai débordé sur l'aspect, je suis pas allé sur l'aspect sécurité parce qu'effectivement, une des assurances qu'on a eues, c'était qu'on puisse respecter la réglementation en termes RGPD notamment, et aussi avoir des data qui soient bien sécurisées, c'est un élément important. Voilà, je voulais juste réagir par rapport à ce sujet du webinaire. Il me paraissait important en termes de changements radicaux, en tout cas chez nous.
Si on vous entend bien, Emmanuel, oui, pardon, je voulais dire, si on vous entend bien, c'est quelque chose qui a été facile à mettre en place, facile à faire, Pascal. Ça se fait en deux temps, trois mouvements, de créer un webinaire comme ça, de façon personnalisée, qui plus est.
Alors, ça se fait pas en deux temps, trois mouvements, bien entendu, mais pour nous, on fait un peu plus de services numériques, c'est notre métier d'avoir les briques logicielles pour pouvoir constituer une plateforme dédiée pour un de nos clients. Donc, c'est un métier. Comme nous faisons des applications servicielles pour le bâtiment, le smart building, c'est un métier également. Donc oui, on est allé assez vite parce que le besoin était très bien identifié et les équipes de Thyssen savaient très bien ce qu'elles voulaient. Donc on est allé très très vite effectivement.
Et ça coûte cher ?
Non.
Non.
Pas plus cher qu'une plateforme webinaire chez un Américain.
Très bien. Bonne réponse. Emmanuel, François, vous vouliez intervenir ?
Oui, simplement pour rebondir, c'est que dans la même lignée, l'ASBA avait une problématique, c'était de porter toute la production qu'on a et notamment de passer, de faire connaître le référentiel Ready to Service au plus proche du terrain. Et à la recommandation de Pascal, on a lancé les SBA Academy. Mais les SBA Academy, on les pensait encore présentiels. Et là, il y a eu le Covid. On est passé full digital et je pense que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin grâce à ces nouvelles méthodes. Donc c'était une bonne opportunité.
Alors, je reviens vers vous, Emmanuel Paris, puisqu'on est dans le digital avant et après Covid-19. Avant Covid-19, vous avez lancé il y a tout juste un an, c'était au mois de mai de l'année dernière, mois de mai 2019, vous avez lancé Max, une solution de maintenance prédictive et digitale de ThyssenKrupp. Donc, où vous en êtes un an après avec Max?
Un an après, on continue d'installer nos boîtiers. La maintenance prédictive, qu'est-ce que c'est? C'est de l'objectif d'en faire du prédictif sur nos ascenseurs et donc de prédire et d'anticiper les pannes, ou en tout cas de les éliminer au fur et à mesure en travaillant avant qu'elles n'arrivent. Donc aujourd'hui, on est dans le schéma qu'on s'était fixé, c'est-à-dire d'implémentation. Aujourd'hui, partout dans le monde, on en a 130 000, et en France, on progresse de manière très vite aussi. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça donne de l'information plus qualitative, qui nous permet d'intervenir de manière plus anticipée et plus rapide. Et donc, on va se connecter. Ça va aussi nous permettre de nous connecter à des plateformes telles que l'évoquait Sébastien tout à l'heure avec un LinkedIn pour pouvoir donner plus d'informations d'une manière qualifiée également à nos clients et à l'ensemble du bâtiment. Donc, on est vraiment sur un outil qui va nous permettre d'améliorer la performance de nos ascenseurs, parce que finalement, notre métier, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient jamais en panne. Donc, ça va nous permettre d'améliorer cette performance et puis l'usage. Donc là, on va offrir un usage et une communication plus simplifiée pour nos clients. Et donc, deux éléments complètement différents. Un, amélioration de la performance et deux, amélioration de l'usage avec aussi une simplification de la visibilité de cet usage qui nous permettra aussi de mieux faire comprendre notre métier à nos clients de manière générale et aux usagers.
Le digital va vers de plus en plus de prédictifs. Je sais que ça vous tient à cœur aussi chez Nexity, Sébastien Durand. Plus de prédictifs et moins de curatifs, hein, c'est ce que l'on dit. En même temps, est-ce qu'on pouvait prévoir ce qui allait nous tomber dessus avec une épidémie comme celle-là? Machine learning, ça veut dire aussi que la machine réfléchit. Elle ne pouvait pas réfléchir à ça, de toute façon.
Là, il faudrait avoir un colloque de médecins autour de la table. Moi, je suis complètement là sur le sujet. En revanche, pour rebondir effectivement sur ce qui vient d'être dit, le sujet du monitoring des bâtiments, c'est vraiment au cœur de la stratégie de transformation digitale de notre côté. Ça s'est traduit notamment par la prise de participation avec la caisse de dépôt une participation au sein d'une société qui s'appelle Intent Technologies. Et effectivement, d'un point de vue très opérationnel, on a plusieurs exemples concrets de prédictifs. On travaille par exemple sur des sujets initiés par Thyssen et les équipes. Thyssen Nexity travaille sur ces cas-là d'analyse prédictive, par exemple sur l'état vibratoire des ascenseurs. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est maîtrisé. Sur l'analyse prédictive de la température de confort de bureau, sur la base d'analyse de consommation énergétique, de la variation de température ambiante et extérieure, et sur la base du fonctionnement des installations, enfin des exemples en fait d'indicateurs de performance calculés sur la base d'indications prédictives, on en a pas mal aujourd'hui.
Notamment en ce qui concerne les bâtiments à distance, hein, c'est ça ?
Si j'ai bien compris.
Sur le pilotage des bâtiments à distance.
Sur le pilotage des bâtiments à distance, donc là on est vraiment sur le registre technique.
Ouais.
Mais effectivement, pour distinguer l'usage de la technique, on voit également qu'on peut travailler sur des sujets d'analyse prédictive, des signaux faibles. Que nous identifions pour expliquer au risque de départ d'un client. C'est la notion de churn dans l'immobilier, mais qu'avec Pascal Zérates, on a déjà à l'époque, quand on travaillait ensemble chez Orange, tous ces signaux faibles, en fait, qui peuvent être la consommation d'eau sur un étage, le passage des collaborateurs du cinquième étage, par exemple, à la machine à café. Bref, toutes les indications qui laissent à penser que l'entreprise occupant le quatrième étage est en train de déménager. Voilà la notion de churn. Et ces sujets de prédictifs sont extrêmement importants à communiquer à nos propriétaires, à nos bailleurs.
Vous travaillez aussi en ce sens, Emmanuel, François, avec SBA, avec Smart Building Alliance.
Ah, de toute façon, ouais, on a une commission qui travaille sur l'intelligence artificielle et qui montre que l'intelligence artificielle, de toute façon, est au cœur du Smart Building et de la Smart City, non seulement pour le côté prédictif, mais également, par exemple, pour tout ce qui est arbitrage. Arbitrage, on va être de plus en plus au fait de la résolution d'équations complexes en temps réel et en mode dynamique, à commencer par exemple par l'énergie. Avec l'arrivée certainement croissante des véhicules électriques, on se pose la problématique de savoir quand est-ce qu'on va recharger son véhicule. Et c'est parce que si effectivement tout le monde recharge son véhicule en même temps qu'il y a la machine à laver qui se lance, etc., ça ne marchera pas. Donc là, effectivement, il y a du prédictif et ensuite, il y a l'arbitrage. Donc, on voit bien que cette intelligence artificielle va s'inviter dans notre vie quotidienne, aussi bien professionnelle que privée.
Pascal Zérates, vous également. Alors, vous avez avec Cardam Digital, donc je le disais tout à l'heure, une entreprise qui a été lancée, enfin un département qui a été lancé récemment, juste avant le confinement, au mois de novembre 2019. Vous étiez déjà donc évidemment dans au niveau du digital dans une certaine avancée. Mais est-ce que les choses sont en train d'évoluer différemment aujourd'hui autour de toutes ces idées de prédictifs, notamment ?
Autour de ces idées de prédictifs, aujourd'hui, nous, ce que l'on constate, c'est qu'on va pouvoir offrir beaucoup plus de services avec l'intelligence artificielle au niveau des applications servicielles que l'on développe pour nos clients. Ça, c'est une chose qu'on est en train de regarder de très près là en ce moment, puisqu'on a un programme qui démarre là-dessus au mois de juillet. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate également, c'est que avec les contraintes que nous connaissons sur Covid-19, Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire, c'est-à-dire faire des grands raouts, des grands kick-off en regroupant des dizaines et des dizaines de personnes. Ce sera beaucoup plus compliqué, d'où l'utilisation de plateformes qui vont faire de l'événementiel digital. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a fait pour le deuil, accompagner le deuil. C'est voilà, faire des grands kick-off digitaux, des assemblées générales digitales. On a déjà commencé à proposer et à mettre en œuvre ce type de service. On a fait une AG la semaine dernière avec un fonds d'investissement qui s'appelle Généo. Et ça permet aujourd'hui de contourner cette problématique où on ne peut pas se regrouper à plus de 10 personnes en un endroit et de pouvoir digitaliser un événement complètement jusqu'à plusieurs centaines de participants. Donc, on est aujourd'hui dans une rupture d'usage, dans une rupture de comportement qu'il va falloir que le digital va nous permettre de réadapter. Donc, on va quand même au-delà aujourd'hui de ce que l'on connaît.
Nous avons le commentaire d'une auditrice, Jasmine, qui nous dit « La donnée est une mine d'or. Exploiter la donnée, l'analyser, valoriser, c'est également valoriser le bien immobilier. » On parle donc de maintenance prévisionnelle, nous dit Jasmine. On est vraiment dans ce que vous nous dites, quoi, en fait. Vous êtes d'accord avec ça ?
Ben de toute façon, il va y avoir tellement de données qui vont être générées par les bâtiments, les smart buildings, que sans prédictif, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'on est bien aujourd'hui, enfin, si on n'a pas des applications qui anticipent, qui modélisent ce qui va se passer, vu l'afflux de données, on va être dans l'hyper-données, en fait, hein, l'hyper-volume de données et l'hyper-service quelque part. Par conséquent, sans prédictif, tout ça ne fonctionnera pas. C'est évident. Enfin, du point de vue
service. Et Emmanuel François, oui.
Oui, et si je peux me permettre, une des conséquences par rapport à ça, c'est des évolutions de métiers, parce qu'en fait, on va avoir des métiers qui vont travailler beaucoup plus sur le prédictif que sur le curatif. Donc, c'est des vrais changements. Si on parle des facility managers, ils sont plus sur le prédictif que sur le curatif, donc sur le data analytics et l'analyse de données pour justement faire de la maintenance prévisionnelle. Mais ça va beaucoup plus loin. Un autre métier qui va changer du fond en comble, c'est le métier d'assureur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le métier d'assureur va, du fait de la prédictibilité, va demander à ses assurés de prendre en conséquence le risque que lui, il aura détecté et n'assurera pas si, effectivement, ses assurés n'ont pas mis les mesures qui vont bien pour couvrir ces risques potentiels qu'il aura détecté. Donc, vous voyez, ça change de tout au tout. Et je pense que les années qui vont venir vont être assez significatives et très intéressantes.
Alors, les années qui vont venir, justement, pensons-nous sur le futur, sur la relance, puisque cette crise sanitaire s'est doublée d'une crise économique aussi. Comment on relance tout cela ? Est-ce qu'on part justement par, comme on l'a fait après la Seconde Guerre mondiale, par bâtiments, par des grands chantiers, des choses comme ça. Il y en a plusieurs, hein. Déjà Emmanuel Paris, vous le disiez tout à l'heure, des grands projets parisiens, des grands projets français qui sont en cours. Ça peut être une solution de relance ?
Il faut avoir en tête qu'on était déjà dans une période où les projets étaient très conséquents. On a beaucoup de projets autour du Grand Paris, on a beaucoup de projets autour des JO 2024. À Monaco et dans d'autres régions, il y a également des projets qui sont d'urbanisation qui sont très conséquents. Donc, on peut pas dire qu'on n'avait pas déjà des gros projets. En revanche, la question, c'est qu'est-ce qu'on pourra faire de plus ? Est-ce que le faire de plus, ça ne sera peut-être pas faire différemment, finalement ?
Oui, on a perdu Emmanuel.
Et notamment, l'action plus environnementale. Moi, j'y crois beaucoup. Eu égard à la période qu'on a vécue, on a appris à travailler différemment. Et je pense qu'on peut peut-être réfléchir, effectivement, avoir des projets, ou en tout cas, peut-être tous travailler avec une empreinte environnementale beaucoup plus faible, et encore plus faible, et accélérer ce mouvement. Après, j'insiste, on était quand même déjà dans une période de projet qui était économiquement très, très importante. Et donc, il faut aussi qu'on puisse continuer à délivrer ces projets parce que les JO vont arriver, alors peut-être sous une autre forme, mais ils vont arriver. Le Grand Paris aussi, Covid-19 ou pas, de toute façon, il faut le faire. Donc, il y a des gros projets qu'il va falloir délivrer et on espère que cette crise, finalement, n'a pas trop impacté un certain nombre d'acteurs pour qu'on puisse absolument délivrer tous ces grands projets. Voilà. Moi, mon ressenti, c'est que la relance, elle sera plus verte et différente. Mais en tout cas, on a de la matière.
Plus verte aussi avec vous chez Next City, Sébastien Durand, évidemment.
C'était déjà le cas. C'était déjà le cas, bien évidemment. Mais dans le prolongement de ça, moi, ma conviction, c'est qu'il est indispensable d'intensifier le développement d'une plateforme service public, en fait, avec trois constats, en fait, qui étaient ça. Le premier, c'est que la crise Covid, elle a considérablement accéléré le déficit de l'État et ça aura des conséquences sur la répartition des finances locales, c'est évident. Le deuxième constat, c'est-à-dire que les élus locaux sont et resteront au centre de la relance économique et on voit bien qu'ils vont travailler d'arrache-pied pour continuer à développer l'attractivité et le développement de leur territoire. Et le troisième sujet, c'est de dire que c'est d'après moi, à travers une coopération publique-privée et une gestion longue durée, que nous pourrons optimiser le patrimoine de l'État. Et ça passera par des contrats de concession, des scènes, etc. Alors, notre ambition chez Nexity, je pense qu'elle est partagée avec Emmanuel François de SBR, c'est qu'il faudra bien mieux gérer le territoire grâce au CIM, hein, au City Information Modeling, et puis réfléchir, penser collectivement à une ville connectée pour tous.
Emmanuel François.
Bah, écoutez, oui, c'est clair que on va, comme je l'ai dit en introduction, cette crise nous a précipité dans un monde numérique où le numérique était au centre. Et clairement, on voit qu'on va vers un monde hyper connecté, où tout citoyen sera connecté, les bâtiments seront connectés, la mobilité sera connectée, les infrastructures seront connectées. Et tout ça doit être homogène et sécurisé. Et ça doit nous inviter à repenser fondamentalement l'aménagement du territoire, l'utilisation des bâtiments, l'utilisation de la ville. Et comme le disait Emmanuel, avec un souci de plus de frugalité, plus de mixité aussi, plus de proximité, puisque le télétravail nous a invités à rester chez nous. Et on a vu que c'était nécessaire d'avoir des services de proximité, de retrouver aussi du lien social. Et donc, il est important de repenser l'aménagement urbain, l'aménagement du territoire. Et de ce fait, dans tout plan de relance, je pense que, comme le dit Sébastien, il faut associer public-privé, mais aussi le particulier. Donc, je dirais un plan PPP, public-privé-particulier. Il faut faire appel à l'épargne populaire, parce que, comme on l'a dit, l'État, il ne peut pas s'endetter non plus infiniment. Donc, il faut associer le citoyen, mais pas dans une approche top-down, mais plutôt bottom-up, c'est-à-dire que associer le particulier, le citoyen, à des projets locaux initiés par l'État ou initiés souvent plus par les collectivités locales qui vont, comme le dit Sébastien, avoir un rôle fondamental à jouer dans les prochains mois et dans les prochaines années.
C'est pour cela que vous avez créé un fonds de dotation autour de la relance, Emmanuel. Emmanuel qu'on a perdu. Emmanuel, voilà, donc il est revenu. Emmanuel, François, vous m'entendez? Oui.
Oui.
Voilà. C'est dans ce sens-là que vous avez créé ce fonds de dotation.
Alors exactement, oui, j'ai créé ce fonds de dotation MAGE.
Qui s'appelle MAGE, voilà, MAGI.
Premièrement, ouais, MAGI, qui a deux rôles. C'est premièrement l'acculturation du citoyen à ces changements, à ces mutations fortes. En gros, si vous voulez, c'est de lui dire « Non, tu ne mets pas un gilet jaune, c'est toi qui es acteur du changement. Et attends pas que le changement vienne d'en haut, c'est toi qui dois être opérateur, auteur de ce changement, premièrement, et lui montrer des exemples. Et ensuite, c'est réaliser ce changement, expérimenter ce changement. Et donc, l'objectif, c'est de permettre le financement d'études ou de projets emblématiques qui pourront être ensuite dupliqués à grande échelle et qui associeraient des acteurs publics, privés sur par exemple des projets d'éco-quartier ou de plateformes numériques ou de nouveaux modèles économiques qui permettront d'aller vers ce vers quoi on veut aller. Donc, c'est ce que je vous disais en préambule, plus de proximité, plus de mixité et surtout de frugalité.
Voilà, plus de proximité, c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment, c'est très tendance, hein, on va dire, la maire de Paris, le maire de Bruxelles évoquent l'un la vie à 10 minutes, l'autre la ville du quart d'heure. Il y a eu aussi un article très intéressant chez nos collègues de ImoWix ce matin sur le sujet. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose d'important, le quartier, hein, c'est vous, Emmanuel François, qui me disiez ça, le quartier comme maille idéale, en fait?
Exactement, je pense que le quartier va redevenir la maille idéale. On l'a oublié. Si vous vous promenez dans Paris, il y a cet esprit village qui existait avant et qu'on a un peu abandonné. Mais il existe aussi dans les bourgs, les villages. Tout ça, c'est un peu disparu parce qu'en fait, on a eu le transport et le transport à bon marché et on a oublié qu'il fallait cette proximité. Et je pense que l'énergie va être au cœur de cette transition parce qu'en fait, on va aller, comme je vous le disais aussi, vers une hybridation de la société, l'hybridation du travail, mais aussi une hybridation de l'énergie avec une énergie centralisée avec des centrales nucléaires, mais aussi beaucoup plus de production locale, de stockage local. Et là, on va comprendre qu'on va aller vers des micro-grids qui sont justement à l'échelle du quartier et autour desquels vont se créer cet espace de vie, à la fois de vie privée et de vie professionnelle. Donc, c'est effectivement un vrai changement de paradigme qui est en cours.
Voilà, on parle de circuits courts dans plusieurs domaines. Ça marche aussi pour celui du digital et de la donnée. Notamment, je sais, Pascal, que chez Cardam Digital, vous y êtes là aussi très attentif à cette idée.
Nous rêvons d'un digital souverain dans un environnement de confiance. Donc déjà souverain, c'est-à-dire effectivement que nos clients aient en tête que leurs données, c'est leur capital et qu'il faut qu'ils les sécurisent et qu'ils les mettent à l'endroit où ils peuvent les récupérer facilement. Et avec l'explosion des activités de smart building, c'est ce que l'on va voir de plus en plus, c'est-à-dire que on espère que nos clients seront très exigeants par rapport à cette donnée. Ils seront très exigeants par rapport à ce contexte, puisque aujourd'hui, on le voit, on parlait de solutions de webinaire tout à l'heure, il existe plein de moyens de communiquer, plein de moyens d'y arriver. Voilà, ne tombons pas dans cette stratégie qui consisterait effectivement à faire n'importe quoi de nos données. C'est un peu notre profession de foi.
Et juste deux secondes, mais comme effectivement c'est un sujet qui plaît aussi bien à Sébastien, à Emmanuel et surtout à Pascal, c'est que ces données, effectivement, aujourd'hui, on commence à parler de plus en plus de l'operating system du bâtiment de la ville, hein, le fameux Building Operating System ou BOS. Et c'est très important parce que ça veut dire que les données restent à une échelle locale et ça aussi, ça contribue à cette maille locale. En fait, le numérique est en train de redessiner la maille de notre territoire et le Building Operating System sera quelque part un peu le point de convergence des données et de l'information qui gouvernera notre société.
Et avant de... Oui, Pascal. Non, vous vouliez rajouter quelque chose, Pascal ?
Non, le Building Operating System, c'est vraiment la plateforme de convergence du service du bâtiment. Donc, c'est... Voilà. Appelons-le plateforme de convergence du service du bâtiment plutôt que Building Operating System.
Je suis d'accord. Ouais. Soyons concrets.
Voilà, le temps passe très vite, il nous reste que quelques minutes. Avant de passer à vos conclusions respectives et puis le temps de retrouver Emmanuel Paris qui a été interrompu, j'ai une question de l'un de nos auditeurs, Thomas Raffinato, qui nous demande ceci, des réflexions, vous avez plus ou moins répondu, mais c'est bien peut-être que l'un de vous affine les réponses, des réflexions autour de l'impact environnemental de la data et de son évaluation sont-elles en cours ?
Alors, si je peux répondre moi très rapidement, parce que c'est une question qui vient dans tous les webinaires ou toutes les conférences dès qu'on parle de numérique. Alors, je vais citer le Shift Project, hein, qui a fait une étude sur l'empreinte carbone du numérique. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% de l'empreinte carbone du numérique, c'est la vidéo. D'accord ? Et je dirais pas, si. Et 20%, c'est le porno. Donc, vous voyez, on est loin de l'empreinte carbone qui est d'une donnée dans un bâtiment qui est infime. On est sur quelques octets. Donc, en fait, on se rend compte qu'on mélange des choses qui ne sont pas comparables. Ensuite, si vous voulez, effectivement, de toute façon, le numérique est consommateur d'énergie. L'ASBA est en train de travailler à lancer une commission carbone, donc sur l'empreinte carbone du numérique dans le bâtiment et l'empreinte carbone du lot technique dans le bâtiment. Donc ça, c'est un vrai sujet et on va travailler là-dessus avec comme objectif, et je le dis en avant-première, c'est notre souhait, c'est notre rêve, c'est qu'en 2022, quand je rentrerai dans un bâtiment, par exemple une chambre d'hôtel pour une nuit, eh bien, j'aurai mon empreinte carbone au même titre que quand je prends le TGV ou quand je prends un avion, j'ai l'empreinte carbone. Et ça, si vous voulez, on s'est donné maintenant un an et demi pour arriver à ce résultat.
Et ça c'est faisable en un an et demi. C'est faisable.
Bien entendu, c'est faisable. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on s'entende sur une appréciation. Mais aujourd'hui, il y a des bases déjà de données qui existent, des cadres de référence. Et l'objectif maintenant, c'est de concaténer tout ça. Donc, vous voyez, on est vraiment au cœur du sujet. Et je rassure l'auditeur, c'est un point important. Ensuite, parce que c'est mon dada, mais je vais me taire après, le numérique peut être propre, parce qu'en fait, on peut très bien alimenter des data centers avec des énergies renouvelables. Et dans ce cas, ben, effectivement, le numérique est peut-être à base d'énergie renouvelable. Et c'est une tendance aussi de fond et que je souhaite qu'il sera de plus en plus intégré en France, en Europe, et qui devrait être dans les plans de relance qui vont venir.
Voilà, on a déjà une heure d'émission, c'est ce que l'on s'était fixé, donc il nous reste quelques instants pour vos conclusions respectives, en espérant que l'on arrive à récupérer Emmanuel Paris, que l'on a perdu. Peut-être votre conclusion, Sébastien Durand, chez Nexity.
Oui, bah, j'aurais trois points à mettre en avant. Le premier, c'est que je vais le répéter, en fait, c'est que notre conviction, c'est que le télétravail ne va pas tuer le bureau, il va véritablement le réinventer, premièrement. Deuxièmement, nous sommes convaincus que les élus locaux sont vraiment au centre de la relance économique, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, le Covid, bien évidemment, aura des conséquences sur les pratiques du télétravail. Si on détecte qu'il y a bien un risque d'hyperconnexion, en fait, on voit également que le télétravail, apporte une vraie réponse aux besoins d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, probable qu'il faille réfléchir à des aménagements de domicile différents. On a aussi évoqué ce sujet. Et puis, dernier point, si le télétravail est bien perçu comme un facteur de productivité, on voit bien que sa seule limite aujourd'hui, c'est bien quand même de complexifier légèrement le travail d'équipe. Et là, fort à parier que le digital prend tout son sens, en fait.
Merci Sébastien. Pascal Zérates pour Cardam Digital.
Moi, je vais être très bref. En fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du digital aujourd'hui, que ça va être un moyen justement de fluidifier nos relations avec ces nouvelles contraintes du Covid-19. Ça va être aussi le moyen peut-être de nous réinventer un avenir numérique au niveau européen avec beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus, on va dire, de sécurité autour de nos données.
Merci Pascal. Emmanuel François pour la SBA, Smart Building Alliance.
Eh bien, je ne peux qu'aller dans ce sens-là. Je veux dire qu'aujourd'hui, on est confronté à un certain nombre d'enjeux. On a eu l'enjeu sanitaire, mais il y a l'enjeu environnemental. Il y a aussi l'enjeu économique, des enjeux sociétaux. Et ce qu'il faut aussi, c'est que les plans de relance prennent conscience du côté systémique de ces enjeux et que donc tout plan de relance est une approche globale. Et pour ça, le numérique est juste incontournable.
Emmanuel Paris, c'est vous qui aurez le mot de la fin en tant que président de ThyssenKrupp Ascenseur.
Merci. Je vous ai abandonné pour des raisons de connexion, comme quoi le digital n'est encore pas parfait partout.
On a continué un petit peu, on a répondu à un auditeur, mais vous découvrirez tout ça sur le podcast, pas de souci.
Okay. Merci. On a l'habitude de travailler avec Nexity sur cette thématique du digital, avec Cardam en tant que fournisseur. On travaille également, on est membre de SBA. Donc, cet élan de digitalisation, il n'est pas nouveau, mais je trouve vraiment qu'il y a eu une accélération très forte ces derniers temps. Et cette période de Covid-19 nous a vraiment montré combien c'était important qu'on accélère sur ce sujet, à la fois pour améliorer la performance de nos ascenseurs, ça c'était vraiment ce qu'on avait en tête, aussi améliorer l'usage via la digitalisation et la communication. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on peut travailler complètement différemment avec nos clients et puis avec nos équipes. Donc la digitalisation, elle a vraiment des multifacettes. Et donc, finalement, c'est en travaillant encore tous ensemble, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, et peut-être en accélérant un petit peu tous nos process ensemble avec la SBA, peut-être avec Nexity, Intent, et puis avec Arnaud, qu'on arrivera encore à délivrer plus de satisfaction à nos clients. Et c'est bien ça un de nos objectifs chez ThyssenKrupp, c'est qu'au final, on fait tout ça pour que nos clients se disent waouh, avec ThyssenKrupp, on a une meilleure performance, on a une meilleure communication. Donc c'est vraiment, nous, c'est dans cette dimension satisfaction client qu'on s'est porté sur la digitalisation. Il y en a plein d'autres, on vient d'en parler, la satisfaction de nos équipes, et puis un élan plus vert. Mais dans un premier axe, c'était vraiment cet axe satisfaction client. En tout cas, merci pour à tous nos invités d'avoir partagé ce moment. On leur tire beaucoup de choses et on aura l'occasion de rééchanger en bac d'une autre manière sur ce sujet qui on peut discuter pendant quelques heures par ce sujet.
Oui, il y a encore beaucoup de choses à dire effectivement, mais ce sera l'occasion de faire d'autres émissions. Merci à tous d'avoir participé à ce premier rendez-vous dans l'ascenseur. On en refait un le mois prochain, hein, si vous êtes d'accord, Emmanuel Paris, avec 17 ans, bien sûr. Merci à tous pour cette émission que l'on peut réécouter, que l'on peut revoir sur Facebook Live, sur la page Facebook de Radio Immo, et que l'on peut également réécouter et revoir sur le site de radio.immo. Merci à tous, excellente fin de journée et à très bientôt.
Rendez-vous dans l'ascenseur, émission spéciale Covid-19, digitalisation avant et après, en partenariat avec ThyssenKrupp Ascenseur, un acteur majeur de la mobilité du futur. Émission à réécouter et télécharger sur radio-immo.fr et sur tous les agrégateurs de podcasts.